Salam alaikum wa alaikum, salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. On est avec Théophile. Comment ça va, Théophile ?
Ça va très bien, merci.
Ça fait super longtemps qu'on voulait vous parler de Yacine et Leïla qui sont autour de la table. Je crois qu'on les avait même mis dans les choux. Bon, en tout cas, on a repartagé un million de fois vos trucs. Yacine et Leïla, vous faites partie de l'association Harash is Beautiful. C'est une association, un collectif qui milite en fait pour se sortir un peu des diktats de beauté concernant le cheveu bouclé, crépus, afro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, genre, en dehors vraiment de Harash is Beautiful, qui vous êtes, ce que vous faites?
Tu peux commencer?
Vas-y. Donc, moi, c'est Leïla. À la base, j'étais juste une supportrice de Harash is Beautiful. Et bien sûr, j'étais en contact avec Yacine et avec Sania. Et à force de discuter avec eux, bah, je me suis retrouvée en tant que CM de Harash is Beautiful. Mais avant ça, je faisais pas grand chose, on va dire. Mais sinon, moi, mon truc, c'est vraiment la com, surtout le community management dans l'événementiel. Et le fait de pouvoir taffer comme ça sur une cause qui me tient autant à cœur que Harash is Beautiful, c'est vraiment quelque chose. Enfin, je prends plaisir à bosser avec Yas. Donc c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas une corvée au quotidien. Mais sinon, dehors de ça, je vois pas trop ce que je peux ajouter à part voilà, je vois vraiment
pas. Quelle origine?
Je suis algérienne. Okay.
C'est important.
Mais on sait, je suis algérienne, ma mère est née ici, mais mes grands-parents sont d'Algérie, mon grand-père est de Bouira, ma tante elle est de Tizi Ouzou. Du coup, voilà, c'est ma zig à fond. Et voilà, c'est mes racines. Après, moi, mon grand regret, c'est de pas parler l'arabe couramment, darija, ne pas parler couramment. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que c'est mes racines, tout simplement, et qu'il y a toujours ce besoin. Quand j'étais plus jeune, je ressentais pas. Plus je grandis, plus je vieillis, entre guillemets, et plus je ressens ce besoin de retour aux racines.
Moi, c'est Yacine. Je suis enseignant. En dehors de Harash is Beautiful, je participe beaucoup à différentes activités, que ce soit dans le militantisme ou dans. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup passionné de musique aussi. Mais voilà, le plus gros, je pense que c'est un travail profond dans le militantisme de quartier associatif notamment. Que dire de plus sur mon parcours? J'ai fait des études en sciences politiques à l'université Paris 8, que je big up toujours quoi qu'il arrive, et voilà, en fait c'est rien de très spécial non plus, mais ce qui est le plus important, je pense, dans mon parcours, que ce soit dans le passé ou dans mon actualité, c'est vraiment une volonté de militer pour les nôtres et pour les quartiers populaires.
On tenait énormément à vous inviter déjà parce qu'on kiffe ce que vous faites. On a déjà parlé énormément, beaucoup de représentations dans la taille. On a fait carrément deux gros épisodes sur ça avec les mecs et avec les meufs. Et aussi, bah voilà, parce que ces questions de représentation, ces questions de physique, ça passe forcément par les cheveux. Et je suis hyper contente d'avoir Théophile avec moi aujourd'hui parce que lui, pour le coup, il a une vraie histoire avec ses cheveux. Oui. Donc, je sais pas si tu veux en parler plus.
Bah, c'est aussi c'est la backstory de super-héros. C'est voilà, hein, Batman, les chauves-souris. Donc, moi, les tondeuses à cheveux. Mais plus sérieusement, ouais, ben, j'ai du coup le cheveu extrêmement bouclé. Ce qui est pas du tout. C'est moins le cas dans le reste de ma famille proche. Et du coup, ben, j'ai dû un peu apprendre seul à en prendre soin. Et du coup aussi à l'aimer. J'ai aussi appris très seul à aimer mes cheveux, alors que j'arrivais dans les années 2000 où il fallait pas se tondre le crâne à la boule à zéro, mais quand même il fallait garder le cheveu court. Si on voulait être un vrai real jeune, tu vois, il fallait garder le cheveu court, avoir une petite crête à la portugaise quand c'était l'équipe de foot, mais tu vois, mais vraiment, genre, fallait pas trop dévier de la norme à ce niveau-là. Ou alors tu tombais dans le emo, les cheveux longs, métalleux et tout, mais voilà. Donc, moi, ben, j'ai eu plusieurs phases de mes cheveux. Hein. J'ai un peu comme Yas, quand j'étais en seconde, j'avais la gouffa, j'avais l'afro vraiment resplendissante qui pointait vers le ciel. Et après, dans le supérieur, j'ai maintenant plus les cheveux qui tombent, avec une nature de cheveux qui a aussi changé avec moi, en fait. Mais voilà, donc voilà, les brimades, le chewing-gum dans les cheveux, la petite phase bonnet rasta, parce que c'était le seul couvre-chef qui m'allait. Mais ouais, donc voilà, pour moi, l'histoire de mon cheveu, c'est aussi une histoire qui est extrêmement liée à mon développement en tant que personne et à ma personnalité. Et je suis extrêmement heureux de vous avoir en face.
Vous aussi, on est super content d'être là.
Est-ce que, Yacine, tu peux nous expliquer un peu la genèse du projet, comment ça s'est monté? Parce que Léla, du coup, toi, t'es arrivée un peu après, mais Yacine, t'étais vraiment l'un des cofondateurs du projet. Et d'où ça part, en fait?
D'où ça part? Déjà, c'est vraiment à la base de base, vraiment à la genèse du projet, c'est de ma propre expérience, en fait, de mon expérience personnelle, de mon vécu par rapport à mon cheveu crépus frisé, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, ou même plus tard à l'université. Et ça part surtout, en fait, d'un moment en particulier. C'est la fin de mes études et la volonté, en fait, de retourner dans mon pays d'origine. Donc c'était au mois de février 2018, et en fait, pour y retourner, on m'a gentiment conseillé que ça allait être chaud avec mes cheveux, que ça allait être tendu, que la situation allait être tendue, que les nerfs allaient être tendus, que ça allait être compliqué, en fait, en gros. Et donc, j'étais face à une situation qui était éminemment complexe pour moi, c'est-à-dire retourner dans mon pays d'origine et avoir un problème avec mes cheveux, enfin, les couper pour pas avoir de problème ou ne pas les couper. Et de là, je me suis dit qu'en fait, il y avait un gros souci, et j'ai partagé ça, en fait, dans les réseaux sociaux, enfin sur Twitter notamment. Et en fait, de là, énormément de personnes ont partagé. Enfin, il y a eu des grosses discussions autour de ça, alors même que je m'y attendais pas du tout. En fait, je suis conscient qu'il y a un problème dans la communauté nord-africaine par rapport aux cheveux, mais j'avais balancé ça, en fait, en me disant vraiment que le truc est encore tabou, personne va vouloir en parler. Mais en fait, là, la magie, s'il y a une magie des réseaux sociaux, c'est bien ça, en fait, c'est qu'il y a une plus grande facilité à parler et à discuter des problèmes, de nos problèmes. Donc du coup, en fait, ça a explosé, tout simplement, dans les réseaux sociaux. Et de là, en fait, énormément de gens ont témoigné aussi de leur situation, des femmes, des hommes, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie en grande majorité, mais aussi de d'autres pays qui ont les mêmes soucis capillaires. Et en fait, c'est pas mieux de rigoler, c'est sérieux. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait presque une enquête sociologique sans le vouloir, puisque des centaines de témoignages sont sortis de ce témoignage que moi j'ai fait. Et en fait, on les a étudiés avec Samia Sardani, que j'ai rencontré par rapport à ce témoignage, d'ailleurs, que je connaissais pas auparavant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel problème. Donc de là, en fait, on s'est dit, on va faire quelque chose. Moi, j'avais déjà en tête de faire quelque chose depuis un moment, mais ça a été le déclic, en fait. Ça a été le truc qui m'a dit, vas-y, Yacine, fais-le. just do it, fais-le, même si t'as rien, même s'il y a personne derrière toi ou quoi. Et voilà, en fait, le halal est venu automatiquement, je parle du mot, parce que c'est un mot commun chez les maghrébins et les maghrébines. Et puis, is beautiful, en résonance avec le mouvement Black is beautiful qu'on crédite, bien entendu. Donc voilà, halal is beautiful vient vraiment d'expérience personnelle, que ce soit la mienne ou celle de Samia, et puis de cette étude sociologique dans les réseaux sociaux d'un nouveau genre. Donc voilà, il y a un peu plus d'un an.
Okay. Et du coup, Leïla, toi, t'as rejoint le projet beaucoup plus tard, et déjà quand tu te présentais, t'en parlais avec énormément d'enthousiasme. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment attiré dans ce projet, et du coup, bah, un peu l'histoire de toi, ton cheveu en fait. Ouais.
Alors moi, c'est assez, pas compliqué, mais j'ai eu plusieurs, j'ai différentes périodes de ma vie où ça a été une relation assez compliquée avec mes cheveux, à savoir que dans ma famille, la seule qui a les mêmes cheveux que moi, c'est ma mère. Après, les autres, c'est ses frères, donc c'est rasé, donc ça se voit pas forcément qu'ils ont les cheveux harash. À savoir que ma mère, personne lui a appris à s'occuper de ses cheveux. Ma grand-mère, elle avait les cheveux raides, et c'était la génération du faut à tout prix lisser les cheveux. Et j'ai expliqué la dernière fois, j'en parlais avec S, enfin, à l'époque, nos parents, ils se lissaient les cheveux avec des fers à repasser quand même. Donc on mettait la tête sur la table, on mettait les cheveux sur la table, on passait le fer. Et il y a des photos de ma mère où elle a été brossée, les cheveux ont été brossés à sec, elle a une touffe énorme. Et elle a une tête toute triste parce qu'on voit qu'elle a souffert quand elle a brossé. Mais du coup, voilà, ma mère n'a jamais appris à s'occuper de ses cheveux. Du coup, moi, j'ai grandi avec une relation assez compliquée pour ce qui était de mes cheveux. Ma mère m'a jamais shamée par rapport à ça, elle a jamais critiqué mes cheveux, au contraire, c'est juste qu'elle savait pas s'en occuper. Du coup, pour aller à l'école, c'était on brosse à sec, on fait deux tresses sur les côtés, et même pas les tresses plaquées, juste deux nattes sur les côtés, et on n'en parle plus. Donc toute mon enfance, ça a été ça. Après, quand je suis arrivée au collège, c'était il fallait absolument plaquer les cheveux pour pas qu'il y ait de frisettes, pour pas que mes boucles sortent, fallait pas que ça sorte, quoi, fallait pas qu'on les voit. Et du coup, quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à m'en occuper par moi-même sans l'aide de ma mère pour qu'elle me coiffe. Donc c'est déjà très tard, hein, la plupart des enfants en primaire, ils savent un peu se coiffer tout seul. Moi, c'était pas du tout le cas. Donc après, au collège, c'était il fallait tout plaquer en arrière avec du gel, comme on voyait dans les pubs, là, du Veldop fixation en béton. J'avais juste, ça m'a cramé le cheveu parce que c'est bourré d'alcool et de produits chimiques. Je tirais tout en arrière et je faisais un chignon bien serré. Et il fallait pas que ça dépasse, quoi. Il fallait que tout soit plaqué et tout. Il y a des moments aussi, des moments où j'en pleurais, quoi. C'était des moments où si j'arrivais pas à coiffer, je pouvais prendre une paire de ciseaux et tailler dedans d'un coup, comme ça, parce que je savais pas quoi en faire. Donc le fait de pas d'avoir grandi sans vraiment avoir su m'en occuper, c'était compliqué. J'ai une période où j'ai testé mes cheveux quand même. Et après, il y a eu la période où j'ai commencé à accepter mes boucles, à les lâcher, tout en continuant à mettre du gel parce qu'il fallait pas que l'afro se voie. Fallait que ce soit des boucles très définies, très serrées, très sèches à cause du gel. Et du coup, c'était pas joli, quoi. C'était, genre, on aurait dit que j'étais un chien mouillé tout le temps, quoi. C'était moche. À partir du lycée, j'ai commencé un peu voilà. Donc les boucles étaient là, mais je savais toujours pas m'en occuper. Et après, quand je suis arrivée, vraiment très tard, hein. Donc ça devait être en 2017. Ouais, 2017. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment s'occuper des cheveux harash, comment s'occuper des cheveux frisés, bouclés, crépus. Et pour ça, Internet est ton meilleur ami, hein, forcément, quand t'as personne à la maison pour t'apprendre. C'est pour ça que je suis contente d'être née dans cette génération, parce que on a tous ces conseils à portée de main, il n'y a qu'à chercher, à trouver, et aujourd'hui je suis je suis encore dans le processus d'apprendre à m'en occuper, je découvre encore des choses. Et du coup, j'ai commencé voilà, de cette manière, en regardant le contenu de d'influenceuses, pour la plupart américaines quand même, parce que à l'époque, les influenceuses avec les mêmes cheveux que moi en France, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Quoi. Ouais,
ou alors elle se lissait les cheveux.
Ou alors elle se lissait les cheveux, ou alors c'était quelqu'un, enfin désolée, ou c'était quelqu'un que j'aimais pas du tout. Mais voilà, c'était ça. Voilà. Donc surtout contenu américain, et je voyais un peu ce qu'elle faisait, j'essayais de reproduire, et petit à petit t'apprends le langage, les termes appropriés, porosité, machin, tu t'intéresses, tu lis des trucs, et mon but c'est d'arriver à d'utiliser un max de produits aussi naturels que possible, parce que on a des cheveux tellement beaux que ça serait dommage de les abîmer avec ouais. Tout un tas de produits.
Ils sont très fragiles aussi. Hein.
Très, extrêmement fragiles. C'est le cheveu le plus fragile, il me semble, comparé aux cheveux raides, ils sont pas du tout aussi fragiles que ça. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est moi qui donne des conseils à ma mère pour lui dire, voilà, tu fais ça, ça, ça. Ma mère, elle est pas du tout dans l'objectif naturel, machin. Elle fait des colos et tout. Mais j'essaie un maximum de lui apporter, prendre soin de ses cheveux. et voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce que je trouvais dommage, c'était... ce qui m'énervait, c'était que je me voyais représentée nulle part, en fait. C'était en grandissant, je me suis vue nulle part. On prend les Disney, je me vois. Tout le monde me dit ouais, mais il y a Aladdin. Non, Aladdin, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec ma culture. Je suis désolée, ce n'est pas du tout pareil. Je me suis vue représentée sur les écrans, mais très très tard. Je devais avoir la vingtaine.
Ça a été quand la première fois que tu t'es sentie représentée?
C'est dans une série qui s'appelle The Bold Type. Et c'était. Je me suis vue représentée de deux manières. Parce qu'en plus, avec mes cheveux, il y a très peu... Enfin, moi, je vois très peu d'actrices maghrébines avec mes cheveux dans les séries, dans les grosses séries. Donc, ma manière de me voir représentée capillairement parlant, c'était souvent des femmes afro-américaines.
Personnes noires, même ouais, voilà. Des youtubeuses aussi, j'imagine qu'il y avait énormément de youtubeuses noires.
Après, culturellement... niveau en tant que femme musulmane, c'était souvent des arabes, pas nord-africaines, mais des arabes. Donc il y avait jamais, on est souvent partagé entre voilà, où est-ce que je me place dans la représentation, qui me représente, pourquoi je me vois pas sur les écrans, et c'est ça qui, plus je grandis et plus je vieillis, c'est ça qui me travaille en fait. On se voit pas à l'écran, on se voit nulle part. Et du coup, voilà, c'est là que je suis allée chercher les influenceuses afro-américaines, c'est là où je suis allée chercher tous mes conseils. Et moi, mon but, c'est clairement, avec Harash is Beautiful, c'est enfin se voir représenter dans les médias, et que ce soit dans les médias nord-africains, du style les médias sur Canal Algérie, 2M, tout ça. C'est triste à dire, mais je suis fatiguée de voir les journalistes avec les cheveux décolorés, lissés.
Même dans les séries, hein, même dans les séries algériennes, marocaines, mais même dans la rue, en fait.
C'est ça.
Au bled, moi, on me reconnaît comme immigrée parce que je me lisse pas les cheveux. Immigrée,
ouais.
Mais que je suis française,
ouais,
en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que je suis née en France, donc je suis même pas immigrée.
C'est complexe, hein.
Ouais, c'est compliqué.
Et ils se rendent compte parce que justement je suis la seule dehors les cheveux bouclés.
C'est ça.
Et il y a un vrai complexe, un vrai tabou, que ce soit, tu vois, chez les Asiates qui veulent se débrider les yeux, les Renois qui veulent se blanchir la peau. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu cette histoire du cheveu, en fait, c'est juste une histoire de critères physiques, de critères de beauté qui sort d'un héritage colonial, déjà, et qui est en fait vachement commun à en fait toutes les minorités.
Ouais, je trouve, enfin, on veut se rapprocher le plus possible du modèle occidental, mais je trouve aussi que chez nous particulièrement, les cheveux harash, c'est aussi le fruit d'une. Du problème de négrophobie au Maghreb. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a une partie de. En fait, c'est partagé. Il y a ce besoin de ressembler aux Européens, et à côté, il y a aussi une négrophobie qui est là, quoi. C'est le fait. Moi, je vois des amis à moi sur Twitter, des mutus à moi sur Twitter se faire insulter par rapport à leurs cheveux, des femmes noires, par des sœurs maghrébines, alors que. Elles se défrisent des cheveux, et alors, elles se défrisent des cheveux pas par complexe, parce que les blancs, les Certaines, oui, certaines, c'est ça, parce que les Européens, les Occidentaux leur font des réflexions. Mais d'autres, c'est réellement parce que, dans un souci de ne pas ressembler, entre guillemets, aux Africaines, avec plein de guillemets autour, parce que c'est vaste l'Afrique. Mais...
On m'a déjà dit ça.
Parce que nous-mêmes, on est Africains aussi.
Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ça,
aucun
sens. Et elles se permettent d'insulter mes sœurs femmes noires. Alors que voilà, on est issus du même continent, c'est un réel problème. Et le fait, on en parlait l'autre fois aussi à l'événement Fibrani, le fait de, quand un bébé maghrébin ou maghrébine naisse, le premier truc qu'on fait c'est on garde ses cheveux, pour moi c'est pas normal.
Ouais,
c'est pas du tout normal. Moi, on me l'a déjà fait en sous couvert de plaisanterie, même si maintenant, avec du recul, ça me fait pas rire du tout. Mais moi, quand ma petite cousine est née, on m'a fait la blague du oh, quand elle est née, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait tes cheveux. Enfin,
oh là là, quelle horreur.
Et si elle avait eu mes cheveux, t'aurais fait quoi? Tu l'aurais abandonnée? Tu t'en serais pas occupée? C'est quoi le bail? Non, enfin, je suis désolée, c'est un réel problème. On en revient toujours au même point, c'est la négrophobie dans notre communauté.
Ça avait été aussi remis sur le devant de la scène avec l'élection de Miss Algérie. Là, ça avait pris des ampleurs beaucoup plus internationales, parce qu'on avait du coup une gagnante d'un concours de beauté qui ne s'inscrivait pas dans un critère capillaire européen ou arabe traditionnel.
Et puis même, elle était... si on écoute les racistes, les maghrébins négrophobes et racistes, selon elle était beaucoup trop foncée pour eux.
C'était une problématique de cheveux et de peau.
Ouais, et de peau,
c'était un combo. Quand je suis retourné au Maroc, parce que depuis je suis retourné plusieurs fois, ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans la rue, c'est des personnes qui me disent « Avec tes cheveux, tu ressembles à un Africain ». Et en général, quand ça m'arrive... En général, des fois, je prends le temps, quand je suis en vacances, de prendre une carte sur mon téléphone et je lui dis, mais le Maroc, l'Algérie ou la Mauritanie ou la Tunisie, où est-ce qu'elle se situe? Il me dit, en Afrique. Je fais, alors on est africain. Il me fait, oui, mais... Bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Je suis pas naïf non plus. Mais en même temps, à partir de ça, je lui explique en fait que, regarde dans la rue, dans les grandes villes, c'est que la diversité maghrébine, elle est réelle. T'as des gens de presque toutes les couleurs de peau et de tout type de cheveux au Maroc, en tout cas que je connais mieux, peut-être moins dans les autres pays. Et la problématique sur ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question de la représentativité de ces personnes-là dans les médias ou autres. Effectivement, que ce soit les séries, bon, qui pour beaucoup sont des séries turques, mais c'est une autre problématique. Les gens s'identifient quand même à ça, et en plus les Turcs aussi ont un problème de représentation, parce que je pense pas que tous les Turcs sont blancs aux yeux bleus. Enfin, je sais qu'ils ne le sont pas tous, mais et pareil dans les journaux télévisés, même si je suis quand même quelqu'un d'objectif, il y a un début d'évolution dans les chaînes marocaines et algériennes, où on voit des personnes avec le cheveu un peu plus crépus, mais plus les hommes que les femmes, ouais. Effectivement, et des hommes aussi beaucoup plus que les femmes, qui ont la peau un peu plus mate, enfin en tout cas qui sont plus du tout dans le critère de beauté blanc aux cheveux lisses. Voilà, c'était la petite anecdote par rapport à ça, mais en tout cas oui, c'est clairement lié à la négrophobie. On l'a dit d'ailleurs dans plusieurs articles et dans plusieurs podcasts précédents, et c'est aussi en fait, nous on le pense, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord, à une forme d'orientalisme en fait du Maghreb, et cette volonté de ressembler à l'arabe en tant que tel du Moyen-Orient, sachant même que l'arabe du Moyen-Orient n'est pas vraiment arabe, parce qu'il y a des mélanges avec ce continent indien, mais c'est encore une autre histoire. Mais effectivement, il y a cet orientalisme là, cette espèce de fantasme des chanteurs ou des chanteuses libanaises, syriennes, etc., qui souvent eux aussi mettent en avant des personnes claires de peau, aux yeux clairs et aux cheveux lisses, alors même que on sait très bien qu'au Moyen-Orient aussi il y a des personnes aux cheveux frisés et à la peau un peu plus mate.
Mais c'est vrai que du fait de l'orientalisme, il y a toute l'Afrique, l'Afrique du Nord, il y a tout le Mashrek, tout le Golfe et même jusque l'Asie centrale, qui ont été dans ce moule de l'arabe de l'Orient. Et en fait, souvent, il n'y a aucune diversité dans cette représentation. Il y a Aladdin, ok, il y a le Liban, et ensuite, on efface les particularités locales, que en Asie centrale, ils ont aussi les yeux bridés, qu'en Afrique du Nord, on est aussi africain, et du coup, in fine, on en pâtit. que de s'effacer pas, enfin, derrière le stéréotype, enfin, le stéréotype et aussi l'image de on est arabe, pas vraiment, et qu'on parle pas non plus strictement leur langue non plus, et que ben, c'est pas parce qu'on parle la Darja qu'on aura un poste aux Émirats ou à Dubaï. Enfin,
non, non, c'est clair. Ouais, ouais. Faut mieux parler anglais.
Voilà.
mais effectivement, c'est un gros souci, et moi, dans les études géopolitiques et en histoire que j'ai fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que déjà aux États-Unis par exemple, et puis par extension en Europe aussi, parce qu'il y a beaucoup de suivisme à ce niveau-là, ils considèrent le Middle East, Moyen-Orient, en partant du Maroc.
Ouais,
c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, quand ils parlent du Moyen-Orient aux États-Unis, c'est ça. Et effectivement, c'est le MENA, Middle East North Africa, et dans le milieu universitaire, quand je parlais tout à l'heure de militer et de lutter à ce niveau-là, j'avais pendant longtemps, aujourd'hui j'ai laissé tomber malheureusement, essayer d'expliquer dans le monde universitaire qu'il fallait qu'on commence aujourd'hui à diviser ces deux champs d'études, pas pour dire que c'est pas la même chose, il y a des choses qui sont similaires quand même, il y a des choses qui sont communes, mais que pour une meilleure...
Il y a
des histoires qui sont complexes, c'est ça, effectivement, non seulement les histoires sont complexes, mais même pour la compréhension justement et pour les études de ces aires géographiques-là, en fait, mettre le Moyen-Orient d'un côté et l'Afrique du Nord d'un autre côté serait beaucoup plus simple en termes d'études de terrain, que ce soit sociologique ou anthropologique.
Et même aux États-Unis, quand ils étudient... quand ils font des Black Studies, African Studies, ils étudient pas le Maghreb.
Ouais, non, mais pour eux, on est arabe.
Ils étudient pas l'Afrique du Nord.
Pour eux, on est
arabe. Il y en a qui savent même pas. Enfin, c'était ce qu'il nous expliquait la dernière fois, Kevin. Ouais. T'as des étudiants qui sont en Black Studies, African Studies, qui ne savent pas placer l'Algérie sur une carte.
Wow.
Ce qui est quand même le plus gros pays d'Afrique. Non, mais vraiment.
Non, c'est clair.
Et surtout même en termes historiques, genre. Bah, si on prend un peu d'histoire, mais je sais pas, les rebelles, tu vois, au Mali, les accords Taman-Rasset, si tu sais pas où est-ce que c'est Taman-Rasset, ben tu vas pas pouvoir te dire où est-ce que. Quoi, tu fais un.
Ah non, c'est clair.
C'est vraiment, voilà, les accords de paix à Taman-Rasset avec les nomades. Enfin, voilà.
Non, comme dans le Mali et tout ça, non, c'est clair. Ah, c'est un gros souci, de toute façon, dans le monde universitaire. Et à un moment donné, je pense que beaucoup de chercheurs vont s'en rendre compte et vont peut-être faire évoluer la question, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore un souci, quoi. Mais voilà, cette idée-là d'essayer de prendre à part l'Afrique du Nord en fait en tant que telle, ça permettrait en fait d'avancer sur plusieurs sujets, mais voilà, c'est pas encore. Je crois que j'étais trop en avance quand je leur ai demandé ça, mais je pense que dans les années à venir ça va évoluer.
Il y a la partie par rapport à nos cheveux, il y a la partie dont on parle depuis tout à l'heure, la partie racisme. Discrimination par rapport à nos cheveux, mais il y a aussi la partie fétichisation, dans le sens où les gens qui se permettent de toucher dans la rue
quelle horreur
juste pour toucher tes cheveux parce qu'ils adorent, enfin non, en fait moi une fois je sortais du métro de Lille, il y a une fille, elle m'a sauté dessus, elle a mis ses mains dans mes cheveux, elle les a plongés, je comprends pas comment. Non seulement il y a la discrimination, mais de l'autre côté il y a le fétichisme avec des gens qui te sautent dessus, tu les connais pas, enfin ils te touchent les cheveux, ils te demandent pas la permission, et du coup c'est deux, enfin la fétichisation et la discrimination racisme, ils se relient, mais enfin c'est je sais que moi quand j'ai commencé à porter mes boucles naturelles, même avec tout le gel comme je disais tout à l'heure, bah même à cette époque-là, mes camarades de classe se permettaient de les toucher. Alors à l'époque, j'en souriais et tout ça, mais des fois, c'était carrément des élèves que je connaissais pas, quoi. J'étais en cours, je sentais quelqu'un derrière tréfouiller à mes cheveux, ou je me glissais un stylo dedans pour s'amuser. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu ferais ça à ta pote qui est assise à côté de toi, qui a les cheveux parfaitement raides? Non, tu lui ferais pas ça. Enfin, donc à ce moment-là, remets-toi en question, réfléchis avant. Enfin,
ça m'arrive de répondre quand on... parce que des fois, effectivement, il y a des personnes qui touchent les cheveux comme ça de façon, enfin, ouais, c'est horrible parce qu'ils te demandent même pas. Mais des fois, il y a des personnes qui te demandent, donc ça reste problématique. Parfois même en le faisant, mais en général, ce que je demande, c'est que... et moi, je peux toucher tes cheveux? Et là, en général, ils sont déstabilisés.
Ouais,
ils disent, mais quoi? Pourquoi? Je dis, bah, toi aussi, pourquoi? C'est quoi le truc? Et en fait, ouais, c'est une... ça a testé, approuvé. C'est une curiosité, effectivement, qui se rapproche du fétichisme. Mais c'est un gros souci. En fait, les personnes qui vont te toucher les cheveux sont... Effectivement, on n'est pas des animaux. Et puis, en fait, je pense qu'il y a une chose, c'est que c'est des personnes qui pour la plupart, voient tellement peu de personnes avec les cheveux frisés qu'effectivement ça les choque, mais c'est pas du tout une excuse pour toucher les cheveux des personnes.
Ça fait bête de fort,
et puis en plus c'est moi, il y a une chose qui m'était arrivée, c'était un cas extrême, c'est pas tout le temps. Quand j'avais refusé qu'on me touche les cheveux, la personne s'était énervée et m'avait dit, mais en fait avec tes cheveux tu me provoques. Ça m'a sur le moment, j'étais resté bouche bée, et en fait c'est le cas extrême du truc où en fait, mine de rien, dans l'espace public, on représente quelque chose de tellement fort que c'est pas normal.
Mais donc c'est ce qu'on vit en tant que femme au quotidien, en fait.
Bien sûr.
Tu me provoques, en fait.
C'est ça.
On va revenir un peu sur Halash is Beautiful. Ouais. C'est quoi pour l'instant, dans un futur proche ou lointain, les buts, les actions?
On discute de temps en temps par rapport à ça avec Yas, et on a plusieurs petits projets. On aimerait faire un événement à Lille. Du coup, moi à la base je suis du Nord, donc on aimerait bien faire un événement à Lille, et moi j'avais dans l'esprit de faire une espèce de table ronde, mais aussi avec un atelier avec des produits pour les cheveux harash et une personne qui expliquerait un peu différentes choses, parce que justement en France on n'a pas toutes ces infos, je sais que je prends l'exemple de, j'ai une meilleure amie qui est américaine, et là-bas ils ont même niveau produit, ils ont tellement de choix pour tellement peu d'argent. Je veux dire, les marques elles se trouvent en grande surface, des marques produits naturels qu'ici là-bas elles coûtent $6, ici ils vont vendre cette même marque, ils vont la vendre 20 balles. On n'a pas vraiment de marque par des personnes concernées, donc par des personnes aux cheveux frisés, crépus, bouclés, qui savent ce qu'ils font. On a juste Garnier et compagnie qui te proposent des airfood et qui te disent, voilà, tu peux l'utiliser de trois manières possibles et ça marche. Et ça marche sur tous les cheveux. Non, en fait, c'est pas comme ça que nos cheveux fonctionnent. C'est pas des gens qui connaissent le cheveu frisé qui font ça. Et ça, pour moi, en plus, je l'ai testé, le produit, et pour vous dire, ça, c'est pas fait pour moi.
Là, on n'aura jamais de partenariat avec L'Oréal.
Instant confession.
Désolée si. Mais non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Mais je veux dire, on n'a pas ce marché du cheveu bouclé par des personnes concernées, en fait. C'est ça que je veux dire. Il y a des petites freelances qui se.
Oui, voilà, il y a des petites marques.
Mais il n'y a pas les grosses marques faites par des personnes concernées. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'à travers des événements comme ça, des tables rondes, tout ça, je trouve ça assez cool, et ça serait assez bien de lier ça à une table ronde, par exemple.
La théorie, la pratique, en fait.
Voilà, l'atelier avec la personne qui vient t'expliquer comment t'occuper de ton cheveu. Et sur le long terme, on a des petites conversations à droite à gauche, mais jamais rien de bien précis.
Bon, en fait, moi, je pense sur le... Effectivement, là, à court terme, l'idée de faire un événement à Lille, et en fait, de manière générale, de faire des événements... en sortant de Paname, parce qu'on a la volonté de travailler sur plusieurs terrains et de sortir
aussi.
On a des demandes en plus, mais de sortir un peu de ce truc là de parisianisme sur les événements.
Votre ressenti quand vous avez pour la première fois vu ou écouté Don't Touch My Hair de Solange. moi je dirais que ça a été quelque chose de très fort, autant en termes du clip qui était extrêmement bien fait, mais aussi des propos.
Ouais, non, c'est...
C'est très très fort.
C'est des frissons, t'as des frissons. Et en plus, enfin, j'imagine même pas... Moi, je suis pas une femme noire, donc moi j'ai eu des frissons, mais j'imagine même pas une femme noire ce qu'elle a pu ressentir.
On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Nous, on a un truc à la fin de chaque épisode, on a une catégorie qui s'appelle Chouf, donc en fait, c'est des recommandations. Ça peut être un film, un livre, une personne, une musique, un album, un article, n'importe quoi. Mm-hmm. Et on aimerait vous demander vos choufs à vous. Est-ce que vous avez un chouf à proposer aujourd'hui?
Même si c'est quelque chose de très connu.
Ouais.
Alors, je pense que tout le monde connaît Janelle Monáe. Donc tout le monde sait qu'elle a sorti un album qui s'appelle Dirty Computer. Mais est-ce que les gens connaissent le film qu'elle a fait sur l'album et qu'elle a mis sur YouTube?
Oui, je l'ai vu.
Il est phénoménal, il est excellent. Et il est, je crois qu'il dure, il doit durer une quarantaine de minutes, je pense.
Ouais, c'est un moyen métrage, tous les clips de.
Ouais, en fait, tous les clips sont mis les uns à la suite des autres, mais sous forme de film court, on va dire.
Est-ce que Netflix, elle avait fait ça aussi pour pour le P. Mélissa, elle avait fait.
Et il y a toute une histoire qui se raconte. Chaque clip a son histoire, mais ils sont bien connectés entre eux. Et du coup, moi j'adore Janelle Monáe, j'ai eu l'occasion d'avoir un concert, mais franchement ce film, je le conseille à 200%. Si vous savez pas quoi regarder sur YouTube, allez voir ça. Déjà,
comme l'album,
il s'appelle Dirty Computer Motion Picture.
Okay.
Et il est excellent. je le recommande. De toute façon, Janelle Monáe, je recommande à qui veut l'entendre. Comme ça, c'est fait. Et après, en représentation, alors je l'ai pas fini, je l'avais commencé. Mais ça, c'est mon problème, les séries, je les commence et je les finis. Mais la série The Bold Type, elle est superbe en thème de pour ce qui est de la représentation. On a une femme, une voilée musulmane LGBT. On a une femme noire qui a un boulot superbe. Il travaille dans c'est une bande de filles qui travaillent dans un journal féministe. Et la femme musulmane qui est immigrée, elle est photographe et vraiment l'histoire elle est top et du coup je le conseille. Ça s'appelle The Bold Type. Donc, chouffe.
Et toi, Yassine?
Comment il s'appelait déjà le film sur Netflix
avec la fille? Natalie Ever After.
Voilà, je pense que.
Je l'ai pas vu encore lui.
Je pense que ceux qui l'ont pas vu, je leur conseille de le voir parce qu'il était vraiment pas mal.
Il fallait trop, il est sur ma liste.
Je trouvais qu'il était vraiment profond en fait, c'est par rapport à la vie d'une femme.
En français, une femme de tête.
Ouais, ce qui c'est pas top d'ailleurs comme titre.
Ouais, il y a mieux.
En général, les titres français sont jamais.
C'est pour ça,
Natalie Ever After.
C'est ça. Et donc, ouais, je pense que ce film-là, qui est sur Netflix, je sais pas s'il est encore sur Netflix ou pas, parce que des fois Netflix est dans le. Je le conseille. Et en livre, en fait, il y a plusieurs livres d'un. Alors, je sais que je vais me faire taper sur le doigt, mais c'est pas grave, il s'appelle Charles-André Julien. C'est un écrivain spécialiste de l'Afrique du Nord. J'aimerais bien qu'on ait à l'avenir des spécialistes de l'Afrique du Nord qui sont issus de la communauté maghrébine, mais c'est encore très très peu le cas, et qui a beaucoup 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 écrit sur l'histoire de l'Afrique du Nord et notamment sur la diversité des peuples de l'Afrique du Nord. Il a fait un livre qui s'appelle l'Histoire de l'Afrique du Nord. Il a fait un livre aussi qui s'appelle Le Maroc face aux impérialismes et qui parle beaucoup en fait de la construction de l'histoire, de toute façon l'histoire des nations nord-africaines et de l'histoire de cette partie du continent africain. Et souvent on me demande est-ce que tu as des conseils parce que justement dans nos conférences des fois, ce que tu fais, on parle beaucoup d'histoire aussi. Donc voilà, je pense que Charles-André Julien était quand même quelqu'un qui a écrit sur le sujet de façon parfois bienveillante, donc je trouvais que c'était plutôt intéressant. Il a d'ailleurs fait partie des personnes qui ont soutenu les indépendances en Afrique du Nord. C'est déjà pas mal pour l'époque. Donc voilà, c'est mes conseils à suivre.
La Taille est un podcast produit et réalisé par Nina Malandro avec Kauter, Sidox, Zied, Amel, Nesrin et Théophile. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver en barre d'infos. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud en tapant La Taille, LAAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et Twitter @lateillepodcast. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.